Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission Dialogue en Congolais avec Alain Ronk à la présentation.
Bonsoir. Dans un rapport publié hier, mercredi, les Nations Unies dénoncent les irrégularités graves dans le procès de Serge Maheshe, journaliste de Radio Okapi assassiné à Bukavu en juillet 2007. Comment analyser ces irrégularités soulevées par les Nations Unies? Où en est-on avec les enquêtes sur l'assassinat de Didas Namujimbo, l'autre journaliste de Radio Okapi tué à Bukavu il y a une année? Nos invités sont Dona Mbaya, président de l'ONG Journalistes en Danger, avec nous dans ce studio. Bonsoir Dona.
Bonsoir.
Bertin Trésor Toumba, officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, section justice transitionnelle et lutte contre l'impunité, également avec nous dans ce studio. Bonsoir Bertin Trésor.
Bonsoir.
Lui, il est en ligne, c'est le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende. Bonsoir Monsieur le ministre.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Bertin Trésor Toumba, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vient de publier un rapport dans lequel vous dénoncez des irrégularités graves dans le procès en appel de Serge Maheshe, journaliste de Radio Okapi assassiné à Bukavu en juillet 2007. Quelles sont ces irrégularités?
Merci bien. Comme je l'ai dit hier lors de la conférence de presse de Madame Labonique, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait premièrement un rapport d'observation à l'issue du premier procès, le procès devant les tribunaux militaires de garnison. Puis après, ce rapport a été rendu public. Puis après, donc, le procès en appel, il a été cédé un devoir de rendre encore un public le rapport d'observation. Et, nous avons donc constaté que les principales irrégularités constatées lors du premier procès ont été pratiquement répétées. Nous avons souligné notamment le refus de la Cour militaire d'exploiter d'autres pistes en dehors de la piste soulevée par le ministère public. Nous avons également remarqué que l'expertise balistique réclamée par la défense, la Cour n'a pas donné droit à cette requête. Il y a eu également une attitude de menace proférée à l'encontre des observateurs et des avocats de la défense. Il y a également beaucoup d'attitudes qui ont démontré une certaine, que la justice n'a pas été vraiment rendue de manière indépendante.
Monsieur le ministre Lambert Mende, comment vous avez reçu ce rapport du Bureau conjoint des droits de l'homme de la MONU?
Bon, tout d'abord, je reconnais au Bureau conjoint, comme à n'importe quel acteur social dans notre pays, le droit d'évaluer les choses qui se passent au sein de nos institutions. Mais je trouve questionnable que l'on puisse comme ça, en quelque sorte, dénier à des juges l'autonomie qui leur est reconnue, parce que nous disons la justice est indépendante. J'ai l'impression que certains se battent pour que la justice soit indépendante du gouvernement, qu'elle soit indépendante du Parlement, mais qu'elle ne soit pas indépendante d'autres structures, comme la MONUC, justement. C'est comme si la justice militaire aurait été obligée de faire valider auprès du Bureau conjoint des Nations Unies les décisions qu'elle prend. Je pense qu'il n'y a rien de plus souverain que la justice dans un pays. Quand une décision de justice est tombée, je pense qu'il vaut mieux la respecter. Et puisqu'il s'agit d'une décision d'une haute cour de justice, qui est encore susceptible de cassation, le respect pour la législation de ce pays aurait guidé à ce que le Bureau conjoint des Nations Unies ou toute autre structure puisse aller en cassation ou encourager les partis civils à aller en cassation. Cette façon de descendre en flamme toujours les institutions du pays, maintenant c'est la justice. On combat pour avoir l'indépendance de la justice, et une fois que la justice décide, on dit non, elle aurait dû décider de cette manière. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de garantir l'indépendance de la justice. C'est une question que je me pose à titre personnel, sans que cela soit à considérer comme la position déjà du gouvernement, puisqu'on n'a pas encore discuté, mais je voudrais quand même qu'on puisse ne fût-ce que respecter les procédures dans ce pays. C'est devant la Cour de cassation. Ce n'est pas un public comme ça qui qu'il faut garder la justice. Je ne suis pas membre de l'institution judiciaire, donc je peux en parler assez librement.
Thomas Mbaya, président de GED, comment vous réagissez à ce rapport, ainsi qu'à ce qu'a dit le ministre Nende?
D'abord, concernant le rapport, nous, ça ne nous étonne pas du tout, parce que à l'époque déjà, et à chaque étape, aussi bien au niveau de la première instance qu'en appel, nous avions soulevé un certain nombre de choses qui ne cadraient pas avec la définition d'un procès juste et équitable. Concernant le point de vue personnel du ministre, que je salue en passant, ce que je voulais dire, c'est que personne ne remet en cause l'institution en justice, mais en tant que citoyen du pays, nous avons le droit de pouvoir nous interroger sur la manière dont cette justice est rendue. Nous ne sommes pas les premiers à fustiger la justice. Le chef de l'État lui-même, en procédant dernièrement à la restructuration dans la magistrature civile, il l'a justifié par les besoins de plus d'efficacité, de moralité, d'honnêteté. Et je crois qu'il y a des véritables problèmes qui se posent, et dans le cas d'espèce, en ce qui concerne le procès de Serge Maïché, il y a eu un certain nombre d'irrégularités qui méritent qu'on les signale. L'indépendance de la justice ne l'autorise pas à ne pas, dans le cadre d'un crime, à ne pas procéder à des analyses balistiques, parce que, vous savez, dans le cas des crimes, des gens risquent leur vie. Alors il faudrait être sûr qu'on n'est pas en train de condamner des gens qui sont des innocents. Et la seule manière indépendante et digne de la justice d'être sûr qu'on ne commet pas des erreurs, c'est de pouvoir, entre autres, mener des enquêtes fiables, épulser toutes les pistes et conduire des analyses ou des expertises qui mettront tout le monde d'accord, parce que quand on prend un fusil, on dit c'est ça l'arme du crime, la seule parole ne suffit pas. Il faudra que scientifiquement, on puisse prouver que cette arme-là est bien celle qui a été utilisée pour tuer telle personne.
Bertin Trésor Toumba, donc si on comprend le rapport, le procès Serge Maïché s'est mal déroulé.
Je ne dirais pas mal déroulé. Je dirais juste que certaines normes nationales, régionales et internationales prévues en matière de procès équitable n'ont pas été respectées par les juges, tant au premier degré qu'au second degré. Et c'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que la justice n'est pas indépendante, nous n'avons pas fait une enquête sur l'indépendance de la justice, mais juste pour voir si les juges, dans leur rôle de dire le droit, ont bien respecté les règles établies en la matière. Voilà.
Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur ces irrégularités? Vous en avez énuméré presque quatre grandes. Par exemple, le refus de la cour militaire d'instruire d'autres pistes et mobiles crédibles de l'assassinat. C'est aussi pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre le problème.
Par exemple, lorsque nous parlons des insuffisances de preuves pénales, nous sommes rendus compte que le juge d'appel mais c'est limité qu'à exploiter les preuves que lui apportait le ministère public. Alors que la défense réclamait beaucoup plus de preuves, beaucoup plus d'enquêtes, et notamment qu'on utilise d'autres pistes crédibles. Vous vous rappellerez qu'au premier degré, il y a d'abord eu l'arrestation des militaires qui ont été présentés comme auteurs du crime, avant que l'on arrête les deux personnes condamnées plus tard, et les deux amis qui ont été d'abord condamnés puis acquittés plus tard. Donc, au second degré, ces personnes ne sont jamais revenues devant le juge. Ils ont été cités, mais ils n'ont jamais comparu. Et dès lors, on n'a plus jamais fait d'enquête pour savoir s'ils étaient effectivement impliqués ou pas. Donc là, on a considéré que c'était une négligence du juge, de la cour. La cour aurait pu, elle avait le pouvoir de le faire, d'investiguer davantage sur cette piste-là, et quitte à elle de la dire s'il était fondé ou pas. Donc, il y a d'autres irrégularités observées. Excusez-moi, je vais parcourir le rapport rapidement, en prendre...
Vraiment le climat d'intimidation et de menace.
Oui. Nous avons réalisé que les avocats de la défense, donc les avocats des deux personnes impliquées, condamnées, ainsi que les avocats des parties civiles,
lorsque ses avocats plutôt demandaient, par exemple, qu'on interroge les autres, les militaires impliqués, le soir même, il y avait eu des menaces sur leur téléphone, des messages SMS qui sont arrivés. Et ce climat n'a pas permis à ces avocats de faire leur travail en toute indépendance, parce que ces avocats craignaient pour leur vie.
Monsieur le ministre, comment vous réagissez face à ces irrégularités?
D'abord, on ne peut appeler cela irrégularité que lorsque une juridiction compétente, en l'occurrence la Cour de cassation, la Cour suprême de justice maintenant, pourra constater qu'il s'agit effectivement d'irrégularité. Donc, je pense qu'il faut, et c'est mon point de vue, on ne peut pas discréditer la justice à tout bout de champ sans dommage sérieux pour le corps social. Parce que finalement, c'est le dernier recours. Même s'il y a des dysfonctionnements, je pense que le président de GED l'a relevé à bon escient, des mesures ont été prises, mais la justice est toujours quelque chose d'indispensable. Et on a prévu les procédures qu'il faut mettre en mouvement pour essayer de corriger les dysfonctionnements au sein de la justice. Et il faut éviter ces façons de décrier comme ça une structure, une institution dont tout le pays a besoin, toujours sur la place publique. Mais ici, lorsqu'on entre dans le fond du problème, qu'un juge accepte ou n'accepte pas de nouvelles preuves, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cela relève de son intime conviction? Est-ce que le juge n'a plus de marge? Est-ce qu'il faut vraiment que le Bureau de coordination des Nations Unies accepte le raisonnement du juge pour que ce raisonnement soit acceptable, de manière tout à fait professionnelle? Je pense que les juges ont leur lecture. Je voudrais dire à nos amis que la logique judiciaire n'est pas nécessairement la logique des partis civils ou la logique de nous, le public, qui sommes soit d'un côté ou d'un autre de la barre. Il y a vraiment une logique professionnelle. La lenteur fait partie aussi de cette logique, puisque ça a été aussi décrié, cette lenteur. On a menacé des avocats. Mais qu'est-ce qui prouve que les menaces contre les avocats relèvent du dysfonctionnement de l'institution judiciaire? C'est très grave. C'est comme si le bureau de coordination voulait affirmer que ce sont les juges qui ont menacé les avocats. Pourquoi pas les assassins, qui peut-être n'ont pas été démasqués, je ne sais pas. On le verra lorsqu'on connaîtra les détails du dossier. Mais pourquoi, lorsqu'il y a des menaces contre les avocats, automatiquement, on dit que c'est la justice ou le juge ou la juridiction qui en est responsable? Voilà un peu des questions qui me viennent à l'esprit lorsque j'entends ces critiques, qui peuvent être fondées, mais que j'estime auraient dû être relayées par les avocats des parties concernées dans les juridictions de cassation, puisqu'on ne peut pas venir au Congo, comme la MONUC est venue, à notre appel, consolider nos institutions et passer le temps, chaque fois qu'il y a le moindre problème, à discréditer même une institution comme la justice. Je ne vois vraiment pas, à l'occasion de cette décision de justice, la raison pour laquelle on ne peut pas aller en cassation. Il faut faire des campagnes auprès du public, mais pour obtenir quoi?
Merci, monsieur le ministre.
Respecter la justice congolaise, la justice militaire.
Merci, monsieur le ministre Don Ambaya. Je vous vois sourire.
Bon, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, les deux condamnés à mort ont déjà saisi la juridiction supérieure, et cela dès l'annonce de la décision, et aujourd'hui, je crois qu'il s'est passé déjà plus d'une année, on n'a toujours pas une date pour l'instruction de l'affaire, c'est déjà un problème. Je suis d'accord avec le ministre quant au rôle de la justice. La justice, je crois, c'est le ciment d'une démocratie. La justice est à un pays ce qu'est le ciment dans une bâtisse. Et que quand le ciment n'est pas de bonne qualité, quelle que soit la beauté de la bâtisse va s'écrouler un jour. Pouvoir critiquer la manière, le professionnalisme, je préfère utiliser ce terme-là, critiquer le professionnalisme de nos juges, critiquer le professionnalisme de nos médecins, critiquer le professionnalisme de nos journalistes n'a rien à voir avec une intention de discréditer une institution. Les braves hommes et femmes qui travaillent dans la justice ne sont pas des saints. Et chaque fois que les autorités prennent la parole au sujet de la justice, même les plus hautes autorités de notre appareil judiciaire, eux-mêmes
critique déjà la manière dont cette justice est rendue. Je citerai pour preuve, il y a quelques, je crois que c'était à la rentrée judiciaire, on a appris des magistrats qui ont dénoncé la justice des forts et des plus riches. Ce n'est pas une manière de discréditer, c'est une manière de responsabiliser. Je crois que aujourd'hui la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui on sait qui a tué Serge? Non, on ne le sait pas. Or, le but d'une justice, le but d'un procès, c'est justement d'établir ce qui s'est passé et de pouvoir sanctionner les coupables. Ce travail n'a pas été fait, donc la mission n'a pas été accomplie. Et tout le monde émet des doutes, même dans le jugement au second degré, il y a des doutes. Donc, je crois que c'est tout à fait légitime que les gens continuent à rechercher, à pousser pour que cette vérité puisse éclater et que les coupables soient sanctionnés. Voilà.
Il y a Martin de Bukavu, qui vous demande à qui profitent les inégalités et les insuffisances relevées dans le procès Maéché.
À qui ça profite?
Oui.
À personne. Pas à la famille de Serge Maéché, parce qu'ils ont besoin de connaître la vérité, pas à la nation congolaise, parce que nous avons besoin tous de connaître la vérité, parce que nous considérons que seuls des procès justes et équitables pourront mettre fin au cycle de la violence. Et finalement, ça ne profite à personne. Voici pourquoi on en parle. Parce que si ça profitait à quelqu'un, on n'allait pas en parler.
Bertin Trésor Toumba, comment le ministre Mende semble vous... est un peu dubitatif hein, quant à ce rapport. Vous avez suivi son argumentation. Comment vous y répondez?
Je peux comprendre le ministre qui est un politique et qui veut à tout prix défendre l'image du pays et du gouvernement. C'est tout à fait compréhensible. Peut-être qu'à sa place, je fais la même chose. Mais là, moi, je ne fais pas de la politique. Ce rapport, c'est un rapport d'observation. Ce n'est pas une enquête pénale. C'est un rapport d'observation. Nous avons observé les comportements du juge par rapport aux normes établies dans ce pays. Bien sûr que les juges ont leur intime conviction. Bien sûr qu'ils sont indépendants. Mais bien sûr, mais cette indépendance, cette intime conviction, il doit être conforme aux règles établies. Lorsqu'un juge refuse de mener une enquête parce que là, il est convaincu que ce n'est pas qu'elle n'aboutira à rien sans un fondement légal, et cela n'est pas conforme à la loi, on doit le dénoncer.
Il y a cet auditeur Kindo, fils de Kindo Manyema, qui s'adresse à vous, Bertin Trésor Toumba. Il dit, j'encourage la MONUC à suivre ces dossiers. Nous attendons voir si la tolérance zéro s'applique déjà à la justice congolaise.
C'est beaucoup plus un message envoyé à la MONUC que je ne représente pas, malheureusement. Moi, je représente juste un bureau qui a fait l'observation. Voilà, je vois que les autorités de la MONUC, peut-être qui suivent, ont reçu le message et vont en faire bon usage.
Monsieur le ministre Mende, parmi les auditeurs qui nous suivent, il y a Pascal Béa de Lubumbashi au Katanga qui s'adresse à vous. Il dit, le rapport des Nations Unies ne surprend personne car nul ne l'ignore, l'impunité en RDC est égale à la corruption aujourd'hui. Je suis sûr que le gouvernement n'en fera pas cas.
Non, je pense que c'est un pessimisme qui n'est pas justifié. Je pense que même les interlocuteurs qui parlent avec nous sont témoins des efforts qui sont faits ce jour-ci pour essayer de relever le niveau du fonctionnement de notre justice. Je voudrais aussi lui dire que les criminels ne sont pas toujours reconnus pour les facilités qu'ils donnent à la justice de pouvoir remonter jusqu'à eux. Lorsqu'un criminel commet une infraction de aussi grave que celle dont nous parlons aujourd'hui, il faut qu'on se dise qu'il ne multiplie pas les preuves pour que la justice puisse s'emparer de lui. Au contraire, il brouille les pistes et il faut une certaine compréhension vis-à-vis de l'appareil judiciaire qui a nécessairement besoin de plus de temps. Il faut juste 5-10 minutes pour tuer quelqu'un et il faut parfois des années pour pouvoir élucider un crime parce que celui qui commet le crime essaye de brouiller les pistes. C'est pourquoi le temps judiciaire est toujours plus long que le temps social. Il faut qu'il y ait une compréhension à ce niveau-là. On comprend l'impatience aucune famille ne peut accepter qu'un membre ait été tué dans ces conditions-là et que dans des temps raisonnables, on ne trouve pas une solution. Mais d'autre part, la justice ne peut pas fonctionner comme un spectacle. La justice fonctionne à la recherche de la vérité. Et si la vérité nécessite que l'on prenne du temps, il n'y a aucun rendez-vous. La justice n'a pas rendez-vous avec qui que ce soit, elle a rendez-vous seulement avec la vérité. Or, la vérité, parfois, elle est capricieuse.
Monsieur
il y a des dossiers qu'on peut élucider en 2-3 jours, il y en a d'autres qui prennent 10-20 ans. Et je vais terminer en vous disant, en signalant aux amis, que dans des cas et des pays aussi développés que les États-Unis, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui contestent encore les décisions de justice concernant, par exemple, l'assassinat du président John Kennedy. Après des années, cette vérité judiciaire est toujours remise en cause. Alors, je pense qu'on peut comprendre que la justice marche toujours un peu plus lentement que le crime.
Monsieur le ministre, je vous demande de répondre brièvement. Peut-on considérer aujourd'hui que le procès Maéché a atteint son objectif?
Dans la mesure où il y a une décision couler en forme de choses jugées, oui, mais il y a aussi les principes judiciaires qui font que, et je suis heureux d'avoir entendu Donna nous dire qu'il y a des gens qui ont pu interjeter un recours en cassation, c'est leur droit, et donc jusqu'au moment où la cassation va se prononcer, le temps judiciaire court toujours. Donc, je pense qu'à ce niveau, nous ne pouvons que constater qu'il y a une décision fondée sur une conviction du juge supérieur de Bukavu qui pourra être confirmée ou infirmée par la cassation.
Donna Mbaya, le projet Maïsé a-t-il atteint son objectif?
Non, je vous dis, l'objectif d'un procès dans le cas d'un crime, c'est que l'on puisse connaître ce qui s'est réellement passé, qu'on sache qui a fait quoi, et que les responsables puissent en répondre conformément aux lois de la République. Dans le cas précis, la vérité n'a pas encore éclaté de manière irréfutable. Donc, de manière irréfutable, on ne sait pas qui a tué Serge Maïché. Je vais vous dire une chose. Les deux criminels qui ont été condamnés qui ont même fait condamner au premier degré les deux amis de Serge Maïché. Mais ils ont écrit pour se rétracter. Ils ont accusé deux magistrats du parquet militaire de les avoir influencés, de les avoir dicté ce qu'il fallait dire, de leur avoir dit d'accepter le crime. Or, nous constatons que face à des accusations aussi graves, au niveau de l'appel, on n'a pas pu instruire, enquêter suffisamment pour savoir si les accusations des deux présumés criminels étaient fondées. On a dit qu'ils racontaient des histoires. Mais si ces gens ont raconté des histoires en ce qui concerne les deux magistrats qui auraient été coupables de subornation, comme on dit dans le jargon, mais c'est toujours les deux criminels, et c'est toujours les déclarations des deux criminels qui ont fondé l'intime conviction du premier juge pour condamner les deux amis de Serge à la peine capitale, ce qui a fait d'ailleurs un scandale que, heureusement, le deuxième juge a pu corriger. Donc, on devait pouvoir enquêter sur cela. Ce que nous demandons, c'est que c'est vrai qu'il faut qu'on respecte les institutions. Mais dans les institutions, c'est comme dans un panier à fruits. Il y a toujours des fruits pourris. Mais à partir du moment où, au nom de l'intangibilité, au nom du crédit des institutions, on essaie de ne pas enquêter pour essayer de détacher des fruits pourris, et c'est le discrédit qui pèse sur les institutions. La justice militaire à Bukavu pose problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous rappellerez Pascal Kabungulu, l'activiste des droits de l'homme, des héritiers de la justice. Ce procès s'est arrêté en plein procès. Un officier de l'armée a arraché une arme, a menacé la cour. Le procès s'est arrêté. Il est allé au cachot, il a fait libérer des gens qui étaient arrêtés là-bas. Ce monsieur est là, il est en fonction. Alors, une justice qui a connu de telles scènes, permettez-nous, en tant que citoyens, de pouvoir, à un certain moment, douter d'elle et demander à ce que le gouvernement que représente M. Lambert Mende puisse nous aider à avoir une justice digne de ce nom.
Bertin Trésor Toumba, un complément par rapport aux irrégularités avant que l'on aborde la deuxième partie de cette émission.
Je veux peut-être revenir sur le point que le président de GED a évoqué tout à l'heure par rapport à l'accusation de subornation de témoins.
En termes simples, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a eu deux magistrats militaires que les condamnés ont accusés d'avoir tordu la vérité en le faisant accepter, porter sur eux l'assassinat de Maïsé, et eux s'estimaient être innocents. Donc, ils accusaient ces magistrats d'avoir dit, contre des promesses de somme d'argent, une voyage en Afrique du Sud, de porter sur eux l'assassinat de Maïsé et de pouvoir porter aussi en tant que commanditaire sur les deux amis qui étaient au fait aussi des témoins du crime. Eh bien, nous avons attendu, nous avons espéré. Il y a eu des demandes auprès de la Cour pour qu'une enquête soit menée. Une enquête tout aussi bien disciplinaire que pénale. Eh bien, il n'y a eu jamais eu d'enquête là-dessus. Les deux magistrats sont juste venus, il leur a été posé une question au cours d'une audience, ils ont répondu, et les questions, les réponses étaient déjà stéréotypées, et ils ont lu les réponses, ils sont repartis. Quelque part, ce n'est pas normal que des magistrats mis en cause dans une affaire aussi sérieuse se comportent de cette manière et que la Cour, ou alors le pouvoir judiciaire, l'auditorat général ou le Conseil supérieur de la magistrature ne lance aucune enquête pour vérifier ces allégations-là. Donc, ça nous a paru assez inquiétant. Et voilà pourquoi on l'a souligné comme étant une parmi les irrégularités retenues lors de ce processus.
Où en est-on avec les enquêtes sur l'assassinat de Didace Namujimbo, l'autre journaliste de Radio Okapi tué à Bukavu il y a une année? C'est la deuxième partie de cette émission. Vous souhaitez réagir? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081-890-66-78 ou encore par SMS au 081-05-15-778.
Au sud Kivu, samedi 21 novembre 2009, la ville de Bukavu se souviendra de l'assassinat de Didace Namujimbo, journaliste de Radio Okapi Bukavu, tué par balle dans la nuit du 21 novembre 2008, non loin de chez lui. Voici une année déjà le récit de l'événement avec Dieudonné Bagalwa à partir de Bukavu.
Vendredi 21 novembre 2008, aux environs de 21h30, les habitants de Niawera à Bukavu entendent retentir des crépitements de balles et tout de suite, les rues se vident. Quelques curieux essaient de localiser le bruit et se rendent compte qu'il provenait du quartier Mukukwe, celui où habitait notre confrère Didace Namujimbo. C'est malheureusement lui qui venait d'être abattu par balle par des inconnus alors qu'il rentrait chez lui. Les assaillants se sauvent et abandonnent le corps devant une maison non loin de sa résidence. Presque personne ne s'en rend compte sur le moment. Le corps restera gisant au sol toute la nuit durant. Il ne sera découvert que tôt le matin du samedi 22 novembre 2008 à la surprise des habitants du quartier où a eu lieu le crime. Une foule de personnes apeurées et affligées accourt aussitôt. À la demande du parquet de Bukavu, le corps sera levé et amené à l'hôpital général pour une autopsie. Une enquête dont les résultats sont toujours attendus commencera le jour même de l'assassinat. La question de savoir qui a tué Didace et pourquoi reste toujours sans réponse. Une année après, aucun procès n'a encore commencé. Bukavu, Dieudonné Bagalwa, Radio Okapi.
Monsieur le ministre Lambert Mende, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central. Pourquoi jusqu'à ce jour n'y a-t-il aucun procès organisé après l'assassinat de Didace Namujimbo, une année après pratiquement?
Je pense que le fait de poser cette question indique un peu une méconnaissance du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Une enquête ne peut pas être close uniquement parce qu'il est passé une certaine période de temps. Une enquête ne peut être fermée, close, et les conclusions déposées auprès de l'instruction judiciaire que si et seulement si les enquêteurs ont terminé à relever tous les indices, toutes les preuves, tous les faits qui peuvent permettre à la partie juridictionnelle de fonctionner. On n'a pas de rendez-vous, il n'y a pas de délai pour cela. C'est seule la vérité, la recherche de la vérité qui guide. Si nous voulons avoir une conception de la justice spectacle, alors nous mettons en danger le concept même de justice. Si après une certaine période, qu'on ait des faits évidents, probants, ou qu'on ne les ait pas, il faut continuer une enquête et ouvrir un procès, parce qu'il faut satisfaire à je ne sais quel besoin du public, alors on ne fait pas de la justice. Il faut vraiment qu'on se rende compte de cet élément-là. Donc, étant donné que des éléments de preuve ne sont pas encore suffisamment à la disposition des enquêteurs, l'enquête doit se poursuivre jusqu'au moment où un dossier qui peut être exploitable judiciairement soit prêt et déposé auprès du parquet et de l'institution de jugement.
Donan Baya, vous êtes président de l'ONG Journalistes en Danger. Aujourd'hui, Journalistes en Danger, Reporters sans frontières, vous avez publié un communiqué sur l'an 1 de l'assassinat de Didace Namujimbo. Et dans ce communiqué, vous dénoncez, je cite, l'immobilisme de la justice militaire congolaise. Pourquoi ?
Oui, nous le disons, je suis parfaitement d'accord avec le ministre pour dire que les enquêtes peuvent prendre du temps, tant qu'on n'aura pas bouclé l'enquête, ça ne sert à rien de fixer une date, je suis parfaitement d'accord. Mais dans le cas qui nous concerne, le temps passé n'a pas... Le temps est passé non pas parce que on cherche à approfondir les enquêtes, les informations en notre possession, c'est qu'à un certain moment, la justice militaire à Bukavu n'a même plus les moyens pour continuer à enquêter. Ça, c'est une vérité, il faut le dire. Et puis, deuxièmement, je suis en possession d'une lettre signée par l'auditeur supérieur militaire, le lieutenant-colonel Moutata Louaba. À l'époque, cette lettre date du 28 avril 2009. En fait, il répondait à une autre lettre de la veuve d'Didace Namujimbo qui demandait quand est-ce que le procès va avoir lieu. Et quand je lis dans un des paragraphes, il dit que tout est ok, une dizaine de personnes sont déjà aux arrêts. Il reste juste une petite chose pour que l'affaire soit fixée devant la juridiction compétente. Nous étions au mois d'avril, nous sommes au mois de novembre. Donc le problème, ce n'est pas tant pour rechercher, pour compléter l'enquête, c'est le problème est que à un certain moment, cette affaire tombe dans les oubliettes. Je vais vous dire aussi une autre chose, c'est que on nous a dit au niveau de Bukavu que la hiérarchie, je ne sais pas ce qu'on entend par la hiérarchie voudrait que la justice militaire se consacre à des cas d'infraction dans le cas des opérations militaires qui sont en train de se dérouler à l'Est. Et une fois, on nous a même dit que non, le personnel était mobilisé pour la paye des militaires, comme s'il n'y avait pas du personnel administratif à même de faire ce travail de paye des militaires. Donc, en définitive, c'est quoi ? C'est que ce temps perdu, permettez-moi l'expression, ne l'est pas dans le but d'approfondir les enquêtes, mais simplement parce qu'il y a comme une sorte d'impasse qui est due, entre autres, à des manques de moyens et même à un certain manque d'intérêt. Ce n'est pas normal.
Monsieur le ministre Mende, on signalerait même certains détenus qui se sont évadés, qui étaient concernés dans le procès à Namujimbo.
Je voudrais retenir dans les informations que vient de nous donner le président Baya de GED, qu'il y a un problème de moyens, je pense qu'il a tout à fait raison, nous avons un problème logistique, on ne peut pas nier cela, nous savons d'où nous venons, nous savons quels sont les moyens à la disposition de nos forces armées, et c'est l'occasion peut-être aussi de lancer un appel au bureau de coordination des Nations Unies, à la MONUC dont il est l'émanation, pour accroître l'assistance qu'ils peuvent donner à cette structure importante que constitue la justice militaire. Puisque c'est vrai, les critiques peuvent aider, mais je pense qu'un soutien logistique peut faire mieux. S'agissant de la hiérarchisation des priorités, j'aimerais dire au nom du gouvernement qu'il n'y a aucune vie qui vaille plus qu'une autre. Le meurtre d'un journaliste à Bukavu émeut tout autant la justice militaire et le gouvernement que ce que effectuent les bandits, que les forces armées pourchassent à l'intérieur du pays. Ce sont des Congolais et ceux de Bukavu sont particulièrement inacceptables pour nous parce que c'est un acte de terrorisme flagrant contre la population du Kivu en s'en prenant à ceux qui jouent un rôle de leader d'opinion. Donc pour nous, ce n'est pas un problème qui est banal. C'est peut-être un problème de moyens qui sont limités, et c'est vrai, c'est l'information que je voudrais donner à M. Mbaya, que la justice militaire est de temps en temps mobilisée pour le contrôle des maigres moyens que l'armée met à la disposition de ses troupes. Lorsqu'on paye des militaires, des magistrats militaires participent à la paye pour veiller ou sanctionner des cas de détournement de la taille des militaires. C'est un des rôles que l'état-major général et le gouvernement leur ont confié. Ce n'est pas par manque d'intérêt, certainement pas. Pas par manque d'intérêt, ça je peux le dire.
Bertin, Trésor Toumba, dans ce genre de situation, quels sont les efforts que fournit le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ?
Dans le cadre de ce procès de Namujimbo, notre bureau sur place à Bukavu n'a cessé, depuis l'assassinat jusqu'à ce jour, de faire une sorte de plaidoirie auprès des autorités judiciaires en charge de ce dossier pour que le procès se tienne finalement. Une année, c'est quand même trop. C'est-à-dire, dans le domaine, en matière pénale, lorsque le temps passe, il y a risque que le preuve se disperse, que les témoins ne soient plus là, et que finalement le procès se tienne à l'absence des certains éléments clés qui auraient pu aboutir à la manifestation de la vérité. Donc nous insistons auprès des autorités pour que le procès se tienne. Il est peut-être vrai que les raisons évoquées par les ministres tiennent, mais à ma connaissance, la seule juridiction opérationnelle militaire dans la Cour opérationnelle militaire n'est établie que dans la province du Nord-Kivu. Jusque-là, dans la province du Sud-Kivu, les juridictions militaires fonctionnent normalement, même si c'est vrai que la justice militaire assiste à la paye de magistrats, du personnel militaire. Mais ça ne peut pas empêcher la justice de travailler, et surtout lorsqu'il s'agit d'un assassinat qui est une infraction à l'ordre public, et que là, il faut à tout prix, dans un délai raisonnable, commencer le procès pour que, enfin, la vérité surgisse et que les coupables soient punis. Voilà.
Don Ambaya, toujours dans votre communiqué, vous dites encore, je cite, vous dénoncez la flagrante volonté de faire tapoter les enquêtes.
Dites-moi un peu, déjà vous avez dit qu'il y a des personnes qui avaient été arrêtées, qui se sont évadées. Et il y a même un des prévenus qui est décédé. Et si le procès ne commence pas, il y a des risques que d'autres personnes à même de pouvoir aider la justice à pouvoir comprendre ce qui s'est passé puissent disparaître pour l'une ou l'autre raison. Et à partir du moment où nous traînons les choses en longueur, personne ne peut garantir que si le procès ne se tient pas d'ici une année, tous les prévenus, la dizaine de prévenus arrêtés seront encore là. Et s'ils ne sont pas tous là, je ne sais pas comment va éclater cette vérité-là. Donc je crois que la fixation de la date dans cette affaire, c'est un problème aussi de volonté. Il faut que les gens veuillent bien rendre justice à cette famille-là, rendre justice à la nation congolaise. Tout le monde en a besoin.
Monsieur le ministre Mende, à part Dibas Namujimbo, il y a également Bruno Coco Chirambiza, présentateur du journal sur la station privée locale Radio Star, tué à Bukavu le 23 août 2009. Il n'y a encore aucun procès également. S'agit-il une fois de plus d'une justice spectacle, comme vous le dites?
Il faut éviter la justice spectacle. Je dis, ces crimes-là, l'assassinat de M. Namujimbo, l'assassinat de Coco Chirambiza, tout comme celui dont la justice vient de rendre un arrêt au niveau de la haute cour militaire à Bukavu, ce sont des crimes qui ne sont pas prescriptibles. Ce sont des crimes contre l'humanité, généralement, et même s'il s'est passé 5 ans, ou 10 ans, ou même 20 ans, dès lors que des indices sérieux permettent d'appréhender des personnes qui sont liées de près ou de loin à ce type de crime, la justice passe toujours. Je vous dis qu'aujourd'hui en Belgique, d'où je viens, il y a un député communiste qui a été assassiné dans les années 50 pour avoir crié « Vive la République » à l'occasion d'une manifestation où le roi participait, le député là-haut. Et maintenant, la procédure a repris parce qu'on n'a jamais trouvé son assassin, sans que l'on puisse dire que la justice belge ne fonctionne pas correctement. En France, le procès Ben Barka, il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été émis il y a à peine 2 mois. Pourtant, ça se passe dans les années 60. Donc, il ne faut pas que nous ayons une conception d'une justice qui peut se rendre rapidement, parce qu'on a besoin de résultats rapidement, parce que les criminels cachent justement toute possibilité que les juges puissent les démasquer rapidement. Donc il faut compter avec le temps également.
Monsieur le ministre, il y a au mois de septembre 3 femmes journalistes de Bukavu qui ont également reçu des menaces de mort très sérieuses, et vous avez déclaré une fois, je vous cite, vouloir améliorer la sécurité des journalistes. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens concrètement?
Nous avons eu à nous concerter avec le ministre de l'Intérieur et de la Justice pour prendre des mesures de sécurité. Le gouverneur du Sud Kivu a été convoqué par le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Nous nous sommes réunis avec lui et sur place à Bukavu, il a pris un certain nombre de dispositions qui n'ont pas été rendues publiques pour des raisons évidentes, pour la protection de ces trois dames qui ont effectivement fait l'objet de menaces. Mais la police et le service spécialisé du gouvernement ont préféré ne pas rendre publiques ces mesures au risque de pouvoir informer les personnes qui menaçaient ces journalistes. Et donc d'autres dispositions ont été prises par les services provinciaux du gouvernement, mais évidemment on ne peut pas en faire état parce que on essaie de piéger aussi ces gens qui veulent faire peur à une population en passant par les éléments les plus représentatifs que sont les journalistes.
Donald Baya, la sécurité des journalistes s'est-elle déjà améliorée?
Bon, vous savez, le risque zéro n'existe nulle part. Ça, il faut le reconnaître, même pas aux États-Unis, nulle part. Le risque zéro n'existe. Il est un fait que chez nous, particulièrement dans la ville de Bukavu, il y a eu tous ces crimes qui ont visé des journalistes. Et parfois, je me pose la question de savoir si ceux qui s'en prennent à des journalistes, en fait, ils ne visent pas à toucher des personnes dont, justement, on parlera à travers tout le monde et pouvoir créer un effet de peur. Et je dis que la sécurité, elle est d'abord collective. Elle doit être assurée au niveau des pouvoirs publics. Mais il y a aussi une sécurité que chacun doit pouvoir développer en fonction du milieu dans lequel il vit. Et le conseil que nous, on donne aux journalistes qui sont dans des milieux que nous appelons dans le jargon les milieux hostiles, ça veut dire où il y a des problèmes de sécurité qui se posent, c'est de pouvoir développer des petites choses qui peuvent les mettre à l'abri. Je vais vous dire, par exemple, vous êtes dans une ville où vous savez que à partir d'une certaine heure de la soirée, il est totalement difficile de pouvoir circuler sans heurts dans certains quartiers, il faudra pouvoir éviter justement de se retrouver dans ce genre de quartier à des heures indues.
Donc le journaliste est aussi responsable de sa propre sécurité.
Absolument, non seulement le journaliste, c'est tout citoyen, il y a la sécurité collective assurée par les pouvoirs publics, et tout citoyen a l'obligation de pouvoir sécuriser.
Voilà, il nous reste une minute pour terminer l'émission. Je vous demande déjà votre conclusion. Donald Baya, vous aviez la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion en ce qui concerne le procès Maeshe, Shirambiza, Namujimbo, en guise de conclusion, en 15 secondes.
En guise de conclusion, moi je dis que la violence ne peut être arrêtée que par la fin de l'impunité. Il faut des enquêtes sérieuses, il faut des procès exemplaires pour que ceux qui se sont découverts une vocation de mettre fin à la vie des autres puissent savoir qu'aucun crime ne restera impuni.
Bertin Trésor Toumba, votre conclusion également.
Moi, en guise de conclusion, je dirais bien, si vous me permettez, reprendre les recommandations.
Très rapidement, je vous en prie.
D'accord. Nous avons demandé au gouvernement, plutôt aux autorités judiciaires, c'est du dossier actuellement, donc la haute cour militaire ainsi que la cour suprême de justice d'examiner rapidement les recours et au besoin même par rapport à ces irrégularités s'il le faut casser l'arrêt de la cour militaire s'il le faut et renvoyer donc pour un autre procès où les normes nationales seront bien respectées, notamment en tenant compte des différentes observations qu'on a faites. Voilà.
Monsieur le ministre Mende, un mot également en guise de conclusion.
Oui, je voudrais d'abord, tout en manifestant ma compréhension vis-à-vis de l'impatience qu'expriment ceux qui militent pour la défense et la promotion des droits de l'homme sur ce dossier, dire que nous sommes tous logés à la même adresse, gouvernement, Nations Unies, ONG, nous devons à cette population protection. Nous devons lui rendre compte des dysfonctionnements dans cette protection que nous nous sommes engagés à lui fournir. Il ne sert à rien de chercher chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement à se jeter des accusations, à chercher des boucs émissaires. Nous devons coopérer pour accroître le niveau de la sécurité, notamment à Bukavu, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo.
Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central, Dona Mbaya, président de l'ONG Journaliste en Danger, et Bertin Trésor Toumba, officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, section justice transitionnelle et lutte contre l'impunité, qui ont accepté de participer à cette émission. Au revoir, restez branchés sur Radio Capi.